Bonjour à tous. Alors on est dans l'évangile de Luc. Je vous invite à prendre vos Bibles. Il n'y aura pas de projection du texte, donc je vous invite vraiment à prendre vos Bibles pour suivre. Donc nous sommes au chapitre 16. On a vu la semaine dernière le fils cadet, le fils aîné avec Pierre. Et on avait plein de belles choses et plein d'exhortations pour nous. Et ce matin, on va continuer. Donc on a déjà vu dans l'évangile de Luc que Jésus révèle en fait qui sont ses vrais disciples. A contrario de qui sont les mauvais disciples et qui ne sont pas ses disciples. Et on a vu déjà à plusieurs reprises que le vrai disciple doit être prêt à renoncer à tout ce qu'il possède. Alors ce passage de Luc 16 qu'on va voir ensemble se découpe en deux épisodes. Celui de l'intendant malhonnête et celui de l'homme riche et de Lazare. Et ces deux épisodes font écho et vont venir compléter Luc 12, qu'on a déjà vu avec Aurélien, qui nous exhortait à comment gérer le matérialisme en tant que disciple. Et Aurélien nous avait exhorté à être riche pour Dieu en utilisant nos richesses avec dépendance et soumission à Dieu. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur Luc 16 et on va voir que le refrain de Luc 16 est que Jésus va nous inviter à réfléchir à la manière dont nous gérons nos biens et ainsi à vivre ici-bas dans la perspective de l'éternité. Gérer nos biens et vivre ici-bas dans la perspective de l'éternité. Alors avant de lire le texte, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai trouvée, qui n'est pas de moi. C'est l'histoire d'un croyant qui arrive au ciel. Il est accueilli par un ange qui lui souhaite la bienvenue et le guide jusqu'à sa demeure céleste. Le voyage est long, il arrive dans un quartier somptueux, le Beverly Hills du ciel. Il demande à l'ange, à qui appartient cette magnifique propriété ? Celle-ci appartient à Abraham, le patriarche. Passant devant un magnifique lac, il voit une immense maison sur pilotis. Et celle-ci, à qui appartient-elle? C'est celle de Moïse, le prophète. Depuis la traversée de la mer Rouge, monsieur avait un peu la folie des grandeurs. Puis il passe en revue des dizaines de maisons, toutes plus belles les unes que les autres. Il voit celle de ses frères et sœurs de l'église, de quelques voisins dont il ignorait la foi. Le guide l'entraîne cette fois en territoire moins luxueux. Ils arrivent dans une sorte de bidonville céleste. L'ange le conduit jusqu'à une cabane au fond d'une impasse, une sorte de cage à lapins confectionnée avec des matériaux de récupération. « Et cette cabane, dit-il, à qui appartient-elle »« C'est la tienne, mon ami, » lui répond l'ange. « C'est une farce, j'espère. Vous avez un drôle d'humour au ciel. »« Non, je ne plaisante pas, » lui rétorque l'ange. « C'est bien ta demeure. »« Mais il doit y avoir une erreur sur l'adresse. » Non, non, c'est bien l'emplacement de ta demeure céleste. J'ai reçu une note spécifique du patron concernant ton emplacement. Le maître précise qu'il a fabriqué la maison avec les matériaux que tu lui as donnés durant ta vie sur Terre. Avec quels matériaux Dieu va construire ma demeure du ciel ? Avec les matériaux que j'aurais mis à sa disposition ici-bas. Prenons la lecture de Luc 16 et nous lirons la première partie jusqu'au verset 18. Luc 16. Je lis dans la version second 21. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, » répond-il. Il lui dit, voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou mammon dans certaines versions. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de l'être de la loi. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et tout homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. » L'intendant malhonnête. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé en lisant cette parabole, mais moi, elle m'a fait mal à la tête un petit moment. Cette parabole est assez déconcertante, car elle s'adresse déjà aux disciples, au verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples. Et donc, cette parabole va être donnée en tant qu'exemple. Quel exemple ? Une précision aussi, c'est une parabole, c'est-à-dire que Jésus a voulu souligner ici une idée principale. Ce n'est pas la peine de chercher à tout transposer et à se demander si ce riche propriétaire est Dieu, vu que ce riche propriétaire va louer la malhonnêteté de son serviteur. On va s'arrêter là dans la transposition, puisqu'elle n'est pas possible. Donc dans cette parabole, on a un maître qui est richissime. Si on réalise les dettes de ses créanciers, le blé qui est dû est l'équivalent de 40 hectares de récolte. L'huile est l'équivalent de la récolte pour 450 oliviers. On a aussi des créanciers qui sont endettés, mais riches également. Et on a un intendant qui... Et à l'époque, vraisemblablement, né sur la propriété, logé, nourri, avec des avantages, 13e mois, 14e mois, 15e mois, en charge des biens du maître, et ayant la capacité d'agir en son nom et de prendre des décisions en son nom. C'est pas le dernier esclave de l'échelle sociale. Et on voit cet intendant, il est... Comment vous le qualifieriez-vous ? Humain, ouais. Avec des adjectifs qualificatifs plus précis. Opportuniste. Ah, vous êtes cool encore. Hein. Malhonnête. Malin. Infidèle. Égoïste. Roublard. Voleur. Peut-être paresseux si on lui enlève la gestion aussi des biens. Bref, tout ce qu'on ne cherche pas chez un employé de confiance à qui on confie ses biens. Vu qu'il va perdre une position sociale et matérielle avantageuse, on voit qu'il prépare son parachute doré. En effet, pour atteindre ses buts à long terme, il va se servir de ce qu'il a à disposition à court terme pour servir ses objectifs, c'est-à-dire disposer d'un ayant droit auprès de riches créanciers de son maître actuel, et ainsi s'assurer un avenir radieux. Ainsi, Jésus donne en exemple non sa malhonnêteté, mais sa prévoyance et son ingéniosité. Si on revient au contexte, cette parabole arrive donc après celle du fils prodigue, qu'on a vu la semaine dernière, qui lui a dilapidé les biens de son père sur la terre sans penser au lendemain. Ainsi, à la différence du fils prodigue, cela donne une indication, d'après Jésus, sur le bon emploi de la vie nouvelle reçue par grâce. La leçon que Jésus donne à ses disciples et à nous aussi est « gérez vos biens en regardant plus loin », c'est-à-dire avec la perspective de l'éternité. C'est vrai, et Jésus va le dire, que nos contemporains, les contemporains de l'époque et également nos contemporains aujourd'hui, sont exemplaires et sont même ingénieux dans l'enrichissement matériel et tous les moyens qu'ils mettent à leur disposition pour cela. Je vous renvoie à la situation des plus riches après le Covid, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Les stock options, l'investissement dans les œuvres d'art, dans le Bitcoin, j'ai toujours rien compris, mais il paraît que c'est bien, en tout cas que ça rapporte des sous. Florent a essayé patiemment de m'expliquer, mais j'ai toujours rien compris. Jésus nous invite également à investir dès aujourd'hui, non pas uniquement pour la retraite à Girc-Arco, mais pour la retraite éternelle. On va revenir sur le verset 9, qui est la conclusion de Jésus. « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. » Pourquoi Jésus qualifie les biens de richesse injuste? Alors, il y a plusieurs pistes. La première piste, ça serait que les richesses sont injustes car elles appartiennent à un monde injuste et pécheur. C'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que sans péché dans le monde, est-ce qu'on aurait besoin d'argent? Question que je vous laisse. Injuste aussi car parfois injustement acquises. Parfois même indirectement ou involontairement. Quand j'achète un smartphone qui a été fabriqué en Asie dans des circonstances injustes quelque part, c'est une richesse injuste. Injuste aussi car injustement répartie. Si je suis né dans une famille aisée par rapport à une personne qui n'est pas née dans une famille aisée, c'est injuste. Si j'ai eu de la chance de faire des études, si j'ai eu l'opportunité d'obtenir un emploi bien rémunéré par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu cette chance, c'est injuste. Si je suis né dans un pays développé, sans rentrer dans les programmes politiques, 1% des plus riches possèdent, on l'a tous entendu, 50% des richesses planétaires. C'est aussi injuste. Alors, quelles sont ces richesses? C'est l'argent? C'est les biens? Mais on pourrait considérer aussi la santé? Pourquoi lui est en bonne santé et pas moi? Le temps, l'énergie, l'intelligence, la force, les capacités, la famille sont aussi des biens précieux que Dieu nous a confiés pour un temps et qui nous seront redemandés, et qu'il est bon de réfléchir à comment les gérer aujourd'hui. Alors dans le verset 9, il est aussi parlé d'habitation éternelle, et il est dit qu'un jour ou l'autre, les biens viendront à manquer, ou nous échapperons, selon Sommer, et c'est-à-dire, tout simplement, qu'une fois passés de l'autre côté, une fois que nous serons au ciel, les richesses terrestres ne seront plus. Et là aussi, j'ai trouvé une petite histoire que j'aimerais vous laisser sur l'exemple d'un homme qui a 100 euros dans son portefeuille. Il peut les dépenser dans un repas ou dans les amusements d'une soirée, auquel cas il ne lui restera rien pour le lendemain. Mais il peut aussi investir cette somme dans l'achat de Bibles ou de livres. De Bibles, en tout cas ici au prix unitaire de 2 euros. Il aura acquis ainsi 50 exemplaires de la parole de Dieu, qu'il répandra judicieusement comme des semences du royaume. Cette semence va lever et produire non des Bibles, mais des âmes pour Dieu. À partir d'une richesse injuste, cet homme se sera fait des amis immortels qui l'accueilleront dans les demeures éternelles le jour où il rendra son dernier souffle. Ces gens pourront dire au ciel à cet homme, « C'est toi qui m'as invité ici. C'est toi qui m'as invité ici. » Investir pour le ciel renvoie à ce verset de Luc 12 qu'on a vu avec Aurélien et aussi de Matthieu 6, 33, « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. » Où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Ainsi, notre réconciliation avec Dieu, dont nous avons parlé ce matin, doit avoir un impact sur notre manière de mener notre vie et de gérer nos biens matériels. Alors Jésus a aussi un autre auditoire que les disciples, et il parle ici des biens matériels, aussi à destination des pharisiens qui écoutent. D'ailleurs, ils écoutent tellement bien qu'ils vont le railler au verset 14, donc ils vont se moquer de lui. Pourquoi ? Parce que les pharisiens considéraient la richesse comme une bénédiction spirituelle. Car cette bénédiction était plus réelle que les promesses divines et avait remplacé Dieu dans leur cœur. Le raccourci fait était « Je suis riche, donc je suis béni par Dieu. » Et pas l'inverse. « Je suis riche, donc je suis béni par Dieu. » La religion, pour certains, était aussi devenue un moyen de s'enrichir. Ainsi, eux que Dieu avait nommés économes et intendants de ses biens spirituels, les avaient détournés à leur propre avantage. Ils étaient donc devenus des adultères spirituels, d'où ce verset 18 sur le divorce qui arrive là, on ne sait pas trop comment. Et je vous renvoie d'ailleurs concernant le divorce à un message de Colin qui a été fait il y a plusieurs années sur ce sujet aussi important. En tout cas ici, Jésus va prendre l'exemple du divorce pour dire aux pharisiens qu'ils sont devenus des adultères spirituels et qu'ils avaient divorcé de Dieu pour se remarier avec Mammon. Mammon.
Pas Maman.
Pas Maman. D'ailleurs, Mammon renvoie, au-delà de l'idole de l'argent, hein, où on a un petit stéréotype, là, un grand truc en or, où les gens s'agenouillent dessus. Mammon, c'est bien plus subtil que ça. Mammon, ça renvoie au principe du matérialisme, qui peut nous entraîner à nous passer de Dieu et à le remplacer dans nos vies, car avec de l'argent, des biens et des richesses, se passer de Dieu est malheureusement possible. L'argent apporte de la sécurité. L'argent apporte du bien-être. Donc, avec des biens, se passer de Dieu est malheureusement possible dans notre vie ici-bas. Mais pour la suite, c'est plus compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus va nous donner une autre histoire. Et on va lire la suite, l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Dans cette histoire de l'homme riche et de Lazare, on voit 2 trajectoires de vie. On voit un homme riche, dans l'opulence, dans la joie, il fait la fête, confiant dans ses richesses, mais insouciant de Dieu et des autres. On voit Lazare, pauvre, mendiant des miettes, malade, dans le besoin, mais la suite va nous montrer qu'il était dans l'espérance et dans la confiance envers Dieu. Également, c'est le seul acteur, seul pauvre, d'une parabole de Jésus qui est nommé. Il est nommé Lazare. Lazare veut dire celui que Dieu a secouru, que Dieu aide. Donc, on voit ici que ce pauvre, malgré sa situation, se confie en Dieu. Entre eux, il y a un portail. Un jour ou l'autre, l'homme riche meurt, Lazare meurt. Lazare est consolé auprès d'Abraham. Donc, pour les Juifs de l'époque, c'est la consolation suprême, hein, bien sûr. Et à une place d'honneur, puisqu'il est auprès d'Abraham, le père de tous les croyants. Des croyants. Il est riche et au paradis. L'homme riche, quant à lui, est tourmenté, et on voit plein de caractéristiques de ce que va être l'au-delà, ce que va être l'enfer. Tourmenté, il regrette, il est sans espoir, il mendie de l'aide, et il est inquiet pour sa famille. Et on voit qu'il se rappelle tout bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Et entre eux, il y a un abîme qui est infranchissable. Les deux meurent, donc, l'un est sauvé et l'autre non. Ce n'est pas à cause de leur compte en banque, vide ou plein, mais à cause de leur foi. Donc, comme je disais tout à l'heure, Lazare, qui signifie celui que Dieu a secouru, a décidé d'attendre son secours et son salut de Dieu. L'homme riche, quant à lui, a choisi de ne pas se soucier ni des pauvres, ni de Dieu, mais plutôt de faire la fête en se confiant dans ses biens matériels. La question qui est posée ici, c'est qu'a-t-il fait de ses biens ? Il s'en est servi à son unique profit, alors qu'il aurait eu la possibilité de faire du bien en commençant par ouvrir son portail à Lazare. De ce côté de la vie, c'est encore possible de franchir l'un et l'autre. Après, c'est un abîme infranchissable. Une citation de Vivre en chrétien aujourd'hui. La manière dont nous dépensons nos revenus en consommant est un signe de notre façon de vivre l'évangile concrètement au quotidien. La consommation révèle en effet comment nous satisfaisons nos besoins, parfois avec ostentation souvent sans tenir compte des conséquences pour autrui. Elle marque notre réponse aux questions du nécessaire, de l'utile et du superflu, révélant en partie la place accordée à Dieu dans notre existence. Notre manière de consommer, je répète, révèle en partie la place accordée à Dieu dans notre existence. En plus de la gestion de nos biens, ce texte nous rappelle aussi, avec cet abîme qu'il y aura après la mort, l'importance et l'urgence du choix du salut sur terre et de mettre son espoir au bon endroit avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, il vaut mieux mendier du pain sur la terre que de l'eau en enfer. Il vaut mieux mendier du pain sur la terre que de l'eau en enfer. Pour finir, je vous propose trois applications à ce passage. Et je trouve que ce texte sur la gestion des biens matériels et de l'argent dans cette période d'inflation galopante, où on ne sait pas combien on va payer le paquet de pâtes dans quelques temps. Et je trouve que ce texte fait mouche, en tout cas pour moi. Alors je vous propose donc ces trois applications. La première, c'est veillons à nos priorités et aux pièges du matérialisme. Les priorités de l'argent ne sont pas celles de Dieu. Les priorités de l'argent ne sont pas celles de Dieu. Au verset 13, Jésus a dit, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Je ne peux servir deux maîtres, alors quelles sont mes priorités? Quand j'ai déjà le suffisant et le nécessaire, et que je pense à des moyens de gagner plus, et que je pense à ma carrière, je m'éloigne de Dieu. Attention, je ne dis pas que Dieu ne veut pas que j'aie une carrière. Mais ce que je dis, c'est que Dieu préfère que je lui confie ma carrière pour que lui la gère. Et que je lui fasse confiance tout en restant reconnaissant de ce que sa main me donne. Et lui saura quoi me donner et à quel moment. Deuxième application, vivre avec une perspective céleste. Se préparer un accueil au ciel. Si l'important est l'après, comment devrais-je utiliser mes biens maintenant? Si l'important est l'après, comment devrais-je utiliser mes biens maintenant? Jésus n'invite ni à la pauvreté, ni à l'épargne égoïste excessive. Mais il invite à la mise à disposition ici-bas des matériaux avec lesquels nous souhaitons bâtir notre demeure céleste. Apprendre à se servir de ses biens avec la perspective d'éternité. Un vaste sujet. Mais c'est aussi utiliser ses biens et ses ressources pour l'avancement du royaume. On peut prêter une maison à des serviteurs pour un temps donné, par exemple. Dans notre groupe de quartier, on a eu le témoignage d'une Nord-Coréenne n'ayant rien, mais ayant reçu de l'aide de portes ouvertes, qui s'est empressée de partager ce qu'elle avait pu recevoir, dans la joie. J'entends beaucoup et j'admire beaucoup des jeunes des CAEF, donc de notre famille d'église, qui réfléchissent dès à présent au métier qu'ils vont faire pour pouvoir servir Dieu. Certains seront profs pour avoir des vacances, pour pouvoir faire des camps ou d'autres choses. C'est un beau métier, il en faut. Et des chrétiens en plus. Certains sont infirmiers et ils peuvent être mutés à gauche, à droite, dans des pays, dans le besoin, ou médecins. On voit aussi des exemples de personnes ayant très peu de biens. Dans les évangiles, cette veuve qui donne de son nécessaire. Le fonds d'implantation des églises des CEF récemment a pu redémarrer puisqu'un legs important avait été fait à la famille d'église. Venir au secours des nécessiteux, bien sûr. Hier, on a pu, d'une très petite manière, aider, effectivement, nos frères et sœurs, ou en tout cas ce peuple ukrainien. Parrainer le sel. Parrainer un enfant qui aura une alimentation, qui aura une éducation et qui aura un enseignement spirituel pour 35 euros par mois. Acheter des Bibles, etc., etc. Ici, on voit une des clés de la vie chrétienne qui est présente dans ce texte. Tous mes choix devraient dépendre non tant de mes besoins terrestres, mais de mon avenir céleste. Tous mes choix devraient dépendre non tant de mes besoins terrestres, mais de mon avenir céleste. Ici, le sujet est l'argent et les biens, mais on peut l'étendre à tous les domaines que Dieu nous donne en gestion ici-bas. Famille, conjoint, travail, maison, lieu de vie, relation, choix de pardonner, choix d'acheter, choix de vendre, choix de fonder une famille, etc., etc. Tous mes choix devraient dépendre non tant de mes besoins terrestres, mais de mon avenir céleste. La dernière application, nous sommes gestionnaires des biens du Maître. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il nous a confié, que cela soit beaucoup ou que cela soit le juste nécessaire. Et progressons chacun à notre niveau dans notre gestion, afin que le Seigneur puisse dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». En conclusion, que Dieu nous aide à considérer ses priorités. Le slogan de « Tout pour sa gloire », « Voir comment Dieu voit pour vivre comment Dieu veut ». Voir comment Dieu voit pour vivre comment Dieu veut. Vivons dès aujourd'hui avec la perspective de l'éternité. Le Seigneur est venu sur terre pour détrôner les puissances et les autorités qui avaient pris sa place. L'argent et les biens en sont une. Confions-lui notre cœur et il pourra nous donner sa paix. Prions. Père Céleste, merci parce que tu nous as laissé ta parole. Et merci aussi parce que tu as quelque chose à dire dans chacun des domaines de nos vies. Seigneur, pardon, c'est vrai pour toutes les fois, Seigneur, où l'argent, ou en tout cas le matérialisme, Seigneur, prend ta place dans ma vie. Et Seigneur, nous te prions avec humilité et avec tous nos défauts de nous aider à toujours plus te mettre à la première place et que tu nous aides à regarder cette éternité. Merci parce que tu es un maître, un bon maître, et parce qu'on peut marcher à ta suite. En ton nom. Amen.